19h-20h, Time Sport avec Bilal Nelman sur Beurre FM.
Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, devrais-je dire. Bien sûr, on est très toutes et tous hein, ce soir, très celles et ceux, hein, totalement. On est très écriture inclusive hein, ce soir sur Beurre FM. Je suis ravie de vous retrouver, évidemment, au singulier et au pluriel, avec ma bande de femmes ce soir, le 8 mars. Alors moi, je voudrais d'abord penser à toutes les femmes, les plus stupides, les ex, les jalouses, les méchantes, mais aussi celles qui nous font du bien, celles qui sont des exemples pour nous. Ne vous inquiétez pas, messieurs, on va parler foot dans un instant, parce qu'on va parler de Benzema, qui nous a fait un match exceptionnel ce week-end. On va parler de Manchester. Est-ce que Manchester, c'est fini? Alors, vous allez me dire, mais lequel? Eh bien, City. Est-ce que c'est fini pour le titre ou au contraire? Mais pas du tout, Marion, bien au contraire. Ce n'est que le début. Je vais saluer tout d'abord les dames qui sont autour de moi. Alison Nkunku, grande supportrice, mais surtout belle journaliste qu'on adore ici et qui aime beaucoup le football.
Bonsoir Marion, très contente que ce soit toi à la présentation. Bonsoir à tous et bonsoir surtout à toutes aujourd'hui en cette journée de la femme.
Alors, il y a également à mes côtés une femme qu'on connaît bien ici, Myriam Bensalah. Bonsoir Myriam.
Bonsoir Marion et enchantée de heureuse de faire l'émission avec toi. C'est la première fois que je participe à une émission présentée par toi.
C'est vrai.
Ça a marqué d'une pierre blanche.
Et absolument.
Et en tout cas, je souhaite une bonne fête de la femme à toutes les femmes de la Terre, qu'elles soient nos mères, nos sœurs, nos amies, et puis toutes les femmes qui font que du bien.
Ah, ça c'est très bien. Ensuite, on a Samia Benzaïd, qui est journaliste aussi, qui est réalisatrice. C'est une femme, j'ai envie de dire, c'est une femme mec. Quand elle rentre, on la voit, on l'entend, et je pense que c'est pas mal ça aussi. Ça va bien?
Ça va, merci. Une femme mec, c'est la première fois qu'on me l'a fait ça.
Eh bien écoute, c'est pas mal. C'est pas mal, t'as 50-50, t'as tout en toi, c'est très bien, c'est parfait. Et notre invitée, mais également consultante, qui est psychologue, qui va mettre du calme dans cette émission. Je suis ravie ce soir d'être avec notre amie Leïla Oubrahim.
Oui, bonsoir, je suis également ravie d'être là, autour de cette table avec des femmes. Et à l'occasion de la journée des droits des femmes.
Bon, mais je suis ravie aussi. Il y a quand même un homme hein, pour réaliser cette émission. On s'est dit, bon, on va peut-être faire venir un gars quand même, hein, pourquoi pas. Yanis, je vais saluer Yanis. Ça va Yanis? Il n'a pas de micro, il s'en fiche complètement. Il ne dit pas bonsoir, il ne parle pas. Il joue au foot et il réalise. C'est bien déjà. Oui, il joue au foot. Non, il ne joue pas au foot. Bon, ben, on va dire qu'il fait semblant. C'est un grand fan de Benzema. C'est parti pour Benzema, c'est le ras-le-bol.
Time Sport, le ras-le-bol.
Bah, ras-le-bol, pas tant que ça, puisque Benzema a fait un match exceptionnel contre l'Atlético, ou plutôt, il sauve le Real. Parlons peu, mais parlons bien. Le Real, la Ligue des Champions, on y croit? On n'y croit pas, Alisson Nkunku?
Moi, j'y crois moyennement cette saison pour le Real. Beaucoup trop fébrile. On l'a vu, que Zidane a été pas mal chahuté cette saison. On parle de Benzema, j'y reviendrai un peu plus tard. Mm-hmm. Mais on voit que cette équipe est quand même en fin de cycle. On bousculait souvent Zinedine Zidane en disant que son équipe est vieille. Il n'y a que des vieux dans son équipe. Mais parfois, ça fonctionne. Et là, c'est ric-rac, ça passe, mais pas trop quand même. Donc, pour la Ligue des Champions, j'y crois pas. Mais en revanche, en Liga, il s'accroche. Et on le voit contre l'Atlético. Encore une fois, Karim Benzema, il est le sauveur de cette équipe. Il vient en chevalier blanc, bien comme, encore une fois, et bien comme des fois, il l'a fait cette saison. Il sauve, encore une fois, la peau du Real Madrid.
Alors, Karim Benzema, qu'est-ce qu'on en pense au Real?
Ah là, franchement, c'est comme l'a dit Alisson, c'est le sauveur, là. 13e but, je crois, cette saison. Franchement, il faut le souligner. Hein. Je ne sais pas pourquoi il n'est plus en équipe de France. Hein.
Ah, ça, c'est ton. C'était gimmick. T'es arrivé, tu m'as dit, mais pourquoi il n'est plus en équipe de France? On sait, malheureusement.
Je sais pourquoi, mais d'un point de vue footballistique, j'avoue que ça serait une force hein, pour l'équipe de France. Hein.
C'est un manque, Alisson. En équipe de France avec Karim Benzema, on revient même plus dessus, on n'en parle plus.
Bien sûr que c'est un manque. Après, on a envie de dire, Deschamps a su gagner la Coupe du Monde sans Karim Benzema. Mais quand même, quand on a un joueur français, un numéro 9, comme on n'en fait plus beaucoup maintenant, qui marque autant, qui est le porteur de cette équipe, on a envie de le voir en équipe de France. Mais malheureusement, on sait que ça n'arrivera pas.
Myriam, alors, ce match contre l'Atlético, on en pense quoi de Karim Benzema?
Alors, pour revenir sur le Real de Madrid, c'est un petit peu éloigné.
Oui, mais c'est pour ça que je reviens sur le match.
Merci à toi. C'est vrai que depuis le départ de Cristiano Ronaldo, c'est le joueur emblématique du Real. Hein. De toute façon, on le voit bien quand il joue et quand il est absent, il y a vraiment une grosse différence. Et hier, il a encore montré toute sa splendeur. Et puis, vraiment, il sauve entre guillemets le Real. C'est malgré un match nul, c'est quand même le sauveur de l'équipe pour revenir au point fort. Et puis, surtout, il a le soutien de Zidane, ce qui est important. Et espérons qu'il soit encore en forme pour la suite de la saison, notamment la Ligue des Champions. qui promet d'être un peu délicate aussi, mais ça nous promet un beau spectacle.
On fait un petit pronostic justement, puisqu'on parle de la Ligue des Champions. Qui remportera cette saison la Ligue des Champions, Lisa Nkunku?
Je vois bien le Bayern remporter cette Ligue des Champions.
Une deuxième fois.
Une deuxième fois.
On est d'accord de l'autre côté de la table avec
Exactement.
Ma petite femme mec.
Franchement, Alison, je crois qu'elle m'inspire.
Oui.
Myriam Ben Salah.
Je dirais Bayern de Munich parce que c'est mon club de cœur, mais je mettrais peut-être une petite pièce sur City.
Leïla Oubrahim, on suit les femmes de la table, on est d'accord pour le Bayern de Munich?
Allez, je vous suis.
Allez, merveilleux. Non,
c'est vrai
très
que
bien.
City, pour City, rebondir, oui. City, ils sont bons, hein, franchement.
Oui. Ils dominent le championnat en plus de Première Ligue, donc c'est intéressant. Et puis Pep Guardiola, c'est magnifique à voir jouer.
Ouais. On va en parler dans un instant de Manchester.
Le seul match qu'il a loupé aussi, ouais, grave.
Alors, pour revenir à Karim Benzema, c'est lui, Alisson, qui tient l'équipe aujourd'hui, qui tient le Real, où on peut quand même dire, non, mais il faut avoir faut raison garder, c'est bien, mais il n'y a pas que lui, c'est...
Ah non, on peut s'enflammer pour Karim Benzema. Ça fait déjà 2-3 saisons qu'il tient un bout de bras le Real Madrid, alors que c'est vrai, il a le soutien de Sergio Ramos aussi derrière, mais c'est lui le joueur emblématique de cette saison, c'est lui le sauveur. Je pense que c'est pas la première fois qu'on utilise le terme de sauveur, surtout cette saison pour Karim Benzema.
Oui.
C'est le joueur du Real cette saison et la saison dernière et la saison d'avant encore.
Karim Benzema, tu es fan toi aussi?
Fan, c'est un grand mot, hein. Je veux pas dire fan, hein. Mais c'est vrai que malgré toutes ces petits scandales qui l'entourent, d'un point de vue football, il brille, hein. Ça reste la tête d'affiche de son équipe et je pense qu'il l'emmène plutôt bien, hein. Après, je sais pas si ça va être concret au niveau de la Ligue des Champions, mais en tout cas, pour le moment...
C'est peut-être aussi le fait de jouer avec Zidane qui embellit son jeu. S'il a peut-être pas connu en tant que joueur... pour embellir le jeu, sa façon de jouer, parce que Zidane a fait cette magnificence sur le terrain qui fait que tous les joueurs à côté, ben, ils étincelaient un peu comme Maradona, Pelé, des grands joueurs. Donc peut-être l'avoir comme coach, ça aide forcément beaucoup. Et puis, franchement, qui n'a pas envie de jouer pour Zidane?
Mais je dirais pas tant que ce soit Zidane, je dirais juste que c'est vraiment le départ de Cristiano Ronaldo.
Aussi, oui.
Parce que quand Cristiano Ronaldo était au Real, on avait un Karim Benzema qui était au service de Cristiano Ronaldo. Et depuis, exactement, depuis que Cristiano Ronaldo est parti à la Juve, on voit un Karim Benzema épanoui, libéré et enfin à la pleine mesure de ses moyens.
C'est vrai.
Qu'est-ce que le football, et en particulier justement des équipes comme le Real, le Bayern, le Barça, ont changé dans vos vies, mesdames? Alison?
Beaucoup de choses. Moi, j'ai mon papa qui m'a amené au Camp Nou depuis l'âge de 6 ans. C'est vraiment un amour, c'est de l'émotion, c'est vraiment quelque chose qui m'apporte beaucoup à titre personnel, le football, vraiment.
Et personnellement alors, Samia?
Moi, le football, c'est plus parce que de base, je suis pas trop football, hein. Moi, je parle franchement. Mais j'ai bien l'impression que ce sport rassemble, et c'est ça que je trouve grave stylé. Donc du coup, pourquoi
ouais,
pas.
Là, il faut
tant,
pas oublier.
Tant
ouais.
en en parler, mais surtout pour y jouer aussi. Hein. Il faut juste quoi, quelques personnes et un ballon, et
c'est ça,
on y va.
Simplement.
Et même tout seul, on peut y jouer. Contre le mur.
Contre le mur.
Face à face.
Bon, c'est triste.
Oui, mais ça améliore ta technique aussi.
C'est moins glamour.
C'est moins glamour. Mais c'est vrai que près de la moitié de l'humanité regarde la finale de la Coupe du Monde. Ça, beaucoup de gens à chaque fois me disent, oui, mais il y a d'autres sports, Marion, il y a le rugby, il y a le basket. Enfin, quel sport peut réunir la moitié de l'humanité?
Le football.
Le football. Voilà.
Bah, ça dépend dans quel pays, hein. Là, on est en France. Donc oui, le foot.
Je parle dans le monde, hein. Moitié de l'humanité qui regarde
les Jeux Olympiques.
Et les Jeux Olympiques, très regardés aussi. Et le Tour de France, on
oui,
le dit pas assez souvent.
Ouais.
Le Tour de
c'est
France, qui est très, très, très regardé. Est-ce que Zidane, c'est la fin au Real Madrid, où il n'y a aucune raison de penser à une fin pour lui au Real?
Ce sera la fin de Zidane au Real Madrid quand lui l'aura décidé. À part ça, Zidane restera au Real tant que lui l'aura décidé. C'est très important. On a l'impression que Zidane est chahuté à peu près tous les mois, toutes les semaines, avec la presse espagnole qu'on adore, hein,
bien sûr,
qui extrapole toutes les unes, tout le temps, la une de As, la une de Marca, avec Zidane, non, il n'est pas assez bien, non, Zidane, c'est fini. Non. Zidane, ce sera fini juste quand lui l'aura décidé. Pas avant.
Samia?
Encore une fois, je crois qu'Alison, elle a tout dit. Hein.
Elle dit tout, elle dit tout, elle dit tout.
Je sais pas pourquoi je suis venue d'ailleurs.
Donc, voilà. Bon, bah, alors, allons-y. Faisons venir des hommes.
Mais non, mais c'est vrai que de toute façon, Zidane, c'était déjà de base en tant que joueur, on parlait que de lui. Mais là, en tant que coach, on se demande déjà, même s'il va pas entraîner la France, déjà maintenant.
L'après des champs, oui, c'est vrai qu'on en parle beaucoup de l'après des champs avec Zinedine Zidane. C'est un mariage presque parfait, Zidane Benzema, non, Alison?
Mariage parfait, c'est une alliance parfaite, un couple goal, comme on dirait maintenant un peu sur les réseaux sociaux. Zidane, c'est un peu le grand frère de Karim Benzema, tant sur un plan sportif, mais sur un plan aussi humain. On sait que Zinedine Zidane, à Madrid, c'est un peu le roi. Il a les faveurs de Florentino Pérez, il est comme à la maison, il est chez lui à Madrid, et il a pris sous son aile Karim Benzema, qui, on le voit, s'épanouit parfaitement depuis l'arrivée de Zidane.
Myriam, c'est un couple parfait.
Il y a tant de choses à dire sur Zidane, pas que forcément sur Benzema. C'est tard, tu posais la question sur les émotions que le football engendre, ce côté ferveur populaire, rassembleur. Il y a aussi ça, mais aussi beaucoup d'autres chose, c'est l'impact du 12e homme. On se rend compte aujourd'hui, ça manque.
Ah oui, ça manque. Oui.
Et puis aussi, en parlant de Zidane, c'est aussi les vrais galactiques. La fameuse époque avec Ronaldo le vrai, le brésilien, avec Raul, Hierro, et Iker Casillas et tant d'autres joueurs. Et puis, pour moi, un moment magique, qui pour moi le plus beau du Real Madrid, c'est le retour de Fernando Redondo sous les couleurs de Milan AC, qui est applaudi, qui a une standing ovation pour un match de Ligue des Champions. Au stade, et je trouve que ce moment, ça représente bien l'esprit du club, le respect des supporters pour ses joueurs et la magie du football.
Voilà un peu d'histoire, bien sûr, c'est important. Sûr. Mais toujours. C'est important, Alison. Bien sûr, nous, on parle bien sûr de ce qui s'est passé ce week-end, mais enfin, il y a un moment, il faut aussi revenir un petit peu aux essentiels.
Les fondamentaux.
J'ai envie de dire. Pourquoi finalement on dit, parce que ça c'est intéressant, c'est une petite parenthèse quand même, pourquoi on dit Ronaldo le vrai? Pourquoi Cristiano ne serait pas aussi le vrai?
Non, mais parce que
il a marqué
le vrai. On dit pas le premier, on dit le vrai.
On dit le vrai parce que vous savez, il y a une petite magie. Ronaldo, brésilien, ça nous fait rêver. Juga Bonito, voilà, il était là avant. Il a eu les ligaments croisés à l'Inter, il revient. Il est Ballon d'Or deux fois. Ligaments croisés, il revient. Ballon d'Or, Coupe du Monde. Ensuite, il la gagne. Il est incroyable. Donc, on a tendance à faire ce distinguo Ronaldo, le vrai, et ensuite celui qui vient après. Cristiano Ronaldo.
Alors, c'est la transition est toute trouvée, parce qu'on parle de force dans cette émission, et je voudrais quand même revenir à notre journée, mesdames, du 8 mars. Et donc voilà, je vous ai demandé de réfléchir un petit peu, enfin j'ai demandé presque à tout le monde, Samia, je lui ai rien demandé du tout, elle s'est installée, je lui ai rien demandé.
Je suis en touriste.
Total. Mais je vous ai demandé à toutes, qu'est-ce que c'est qu'une femme forte pour vous, mesdames? En quelques mots, qu'est-ce que ça représente pour vous, la force? Qu'est-ce qui est évident pour vous? Alors, on va commencer, bien sûr, avec la psychologue de la table.
Bien sûr.
Psychologue de la table. Alors, j'attends donc la réponse de Leila Oubrahim.
Bien, c'est une très belle question pour ce jour, aujourd'hui. Pour moi, une femme forte, je vais dire que c'est une femme en quête de liberté, quelle qu'elle soit. Voilà, une femme indépendante, mais avant tout, une femme en quête de liberté. Voilà.
Qui veut se libérer.
Voilà.
De n'importe quelle chaîne.
N'importe laquelle, n'importe quelle circonstance, ça peut être à différents niveaux.
Ça peut être quoi, sa famille, ça peut être son travail, ses amis, ça veut dire... Là, d'un coup, j'ai envie de savoir un petit peu. Je gratte plus en quelques mots, mais puis, d'un coup, je me dis, ça veut dire quoi?
Oui, la quête d'indépendance, elle est à différents niveaux. Elle peut être une quête d'indépendance financière, une quête d'indépendance au niveau de la famille, au niveau de ce qui se joue dans la famille, au niveau de l'éducation qu'on a pu avoir.
Se libérer de ses chaînes, toutes les chaînes.
On peut
Myriam,
dire ça.
Myriam, en un mot, une femme forte.
Une femme forte, c'est une femme qui croit en soi. Qui se respecte et qui accepte la différence, qui accepte que sa part de masculinité aussi,
oui.
Tout comme l'homme a sa part de féminité
ouais.
Et que l'humanité, l'un sans l'autre, n'existerait pas.
Alison Nkunku, rapidement, une femme forte, c'est qui? C'est toi déjà.
C'est une femme indépendante et une femme qui s'assume, quelles que soient ses décisions, quelle que soit sa manière de penser, quel que soit son mode de vie, une femme qui s'assume.
Samia.
Alors moi, j'ai pas réfléchi à la question.
Et oui, j'ai demandé avant, mais voilà.
On n'a pas besoin d'y réfléchir en vrai, en tout cas, je pense qu'ici, on a grandi avec cette idée d'être une femme libre, indépendante, forte, et surtout, du coup, ça veut dire quoi? Être ce qu'on veut être et pas être ce qu'on nous dit d'être.
C'est parfait. Ben, la transition est toute trouvée. Dans un instant, on va reparler bonne femme. Ben oui, les gars, c'est comme ça. On va parler bonne femme, mais on va parler Manchester aussi. On va parler Manchester City, Manchester United. On se retrouve tout de suite sur Beurre FM.
Time Sport revient dans un instant. Beber FM, 19h-20h, Time Sport, avec Bilal Nenman.
Tu vois ? Ravi de vous retrouver. J'aime beaucoup avec Bilal Nenman. Ouais, non, c'est Marion. C'est Marion. Bilal, c'était un peu travesti ce soir. C'est donc moi toujours avec mes drôles de dames, Myriam, Alison, Samia et Leïla. Alors, mesdames, on va parler de Manchester, des deux Manchester. Est-ce que sur un match, Alison Nkunku, on peut dire déjà que City a montré réellement des faiblesses pour cette fin de saison?
Non, pas du tout. J'aurais été d'accord avec toi si tu m'avais posé la même question en début de saison. Parce que effectivement, le début de saison de Manchester City était très 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 poussif. Ça perdait beaucoup. Marion est mort de rire. Je vais continuer toute seule. Ça perdait, c'était accrocheur. Et on voyait pas tellement la patte de Pep Guardiola. Et là, on se demandait, mais est-ce que Guardiola y arrivera enfin avec cette équipe de Manchester City? Mais depuis, ça déroule quand même. Et ça roule pas mal chez Manchester City. Le match, l'accro contre Manchester United, c'était vraiment un petit accro, comme je viens de le dire, et ça arrive dans une saison où les organismes tirent. On a vu là Manchester City, ça tirait un peu, c'était un peu à bout de souffle, les joueurs étaient un peu carbo, mais ça arrive tout doucement, ça arrive que on puisse s'accrocher, on puisse perdre, mais ouais. Je pense que Manchester City est une équipe bien huilée cette saison. Je pense que défensivement parlant, enfin, on a trouvé une charnière centrale défensive qui fonctionne. Enfin, c'est ce qui était reproché beaucoup à Pep Guardiola, dans toutes ses équipes d'ailleurs. Et là, ça fonctionne. Donc je pense que l'accro contre Manchester United, c'est vraiment
un détail.
Voilà, ça reste toujours en tête de la Première Ligue. En Ligue des Champions, on verra si ça va aller au bout. Mais en tout cas, pour la Première Ligue, j'y crois.
C'est vrai que c'est des grosses saisons, Myriam Ben Salah, avec le Boxing Day en Première Ligue. Est-ce que tu es d'accord avec ce que vient de dire Alison ou au contraire, non, c'est pas un accro, c'est plus inquiétant que ça?
Non, je suis d'accord avec ce que Alison vient de dire. C'est vraiment un accro, parce que pour moi, déjà, ils dominent largement le championnat. Donc ça, déjà, c'est une valeur sûre, c'est un point positif. Et surtout, c'est plutôt cette contre-performance, on peut dire, entre guillemets, c'est plutôt... C'est pas un mal pour City, c'est plus un atout pour Manchester United, qui revient dans la course au championnat, et surtout qui est importante pour la future saison de Ligue des Champions. Parce qu'il y a quand même 8 équipes qui veulent se jouer la Ligue des Champions l'année prochaine, donc c'est quand même pas mal. Hein.
C'est vrai que la Première Ligue quand même nous fait rêver, reste toujours quand même le premier championnat du monde. Enfin, on a quand même l'impression qu'il y a tout le temps des rencontres de Ligue des Champions en Première Ligue et que c'est difficile d'être totalement régulier sur toute la saison, Alison.
Totalement, tous les week-ends, et là cette saison encore plus que par exemple la saison dernière ou la saison d'avant, ou même la saison d'avant. Cette saison, on voit les clubs qui reviennent enfin. On parlait de Manchester United, enfin Manchester United retrouve le devant de la scène. Il y a des clubs comme Everton aussi qui sont là, qui s'accrochent et qui sont toujours aussi dans les 7-8 premières places. On a Chelsea, qu'on n'y croyait pas forcément à ce Chelsea de Lampard, et on a un Chelsea nouveau visage avec l'ami de Marion, tant aimé, Thomas Tuchel, qui revient et qui fait de bonnes choses avec.
Bah oui, on lui demande pas de gagner le championnat, on lui demande pas de gagner la Ligue des Champions, on lui demande pas de gagner une Coupe d'Angleterre. En fait, on lui demande rien, donc finalement, c'est très cool pour lui.
Pourtant, il est là. Voilà.
Oui, il est là,
il joue sans pression et il y arrive, n'en déplaise à Marion. Il n'est pas arrivé avec le PSG, mais là, en Angleterre, il fait plutôt des bonnes choses depuis qu'il est arrivé. Mais en tout cas, cette saison en Première Ligue, ça s'accroche, ça se bat, et ça sera difficile et pour City d'aller remporter le titre et pour une place qualificative en Ligue des Champions.
Manchester United, on en parle un petit peu, parce que Solskjaer, est-ce que c'est finalement l'homme de la situation? Alors là, sur ce match-là, oui, mais est-ce qu'on peut imaginer de la longue durée avec Solskjaer à Manchester United, Alison?
En tout cas, ce qu'il fait là depuis quelques temps, c'est bien. Il a apporté de la régularité à cette équipe de Manchester United, et il a apporté de la régularité aussi à des joueurs comme Anthony Martial. On l'attend depuis des années, Anthony Martial, et ce qu'on lui reprochait justement, c'est un manque de régularité. Et on voit que cette saison, des joueurs à son image, sont bons. Donc oui, je pense qu'il sera là, en tout cas l'année prochaine. Maintenant, c'est difficile de se projeter avec un entraîneur plus de 2 ans et demi. On sait que les contrats, c'est 2 ans, 2 ans et demi, et généralement pas au-delà, mais je le vois bien en tout cas la saison prochaine, et pour le reste, on verra.
Myriam Ben Salah, Manchester United, Solskjaer, Manchester City, Guardiola. Moi, je crois que tu es une fan de Guardiola, si je me souviens bien. Et ça se voit quand même dire non, pas du tout. Absolument pas.
J'aime bien le beau jeu qu'il proposait au Barça. Donc, c'est vrai que du coup, ce qu'il fait à Manchester City, ça.
Historienne du foot. Toujours, notre Myriam.
Si tu apprécies, certains auditeurs de Beurre FM apprécient, ça me fait plaisir. Mais c'est vrai que c'est important d'avoir d'avoir ce côté un peu historique, parce
bien
que
sûr.
Ce sont les valeurs du foot, ce sont l'essence même du football, parce que le football d'aujourd'hui découle du football de quelques années. Et puis pour revenir à Manchester United, il faut aussi succéder à Sir Alex Ferguson, parce que la tâche n'est pas facile, n'est pas simple. C'est un personnage qui a pris tellement d'ampleur dans le club, où c'est une emprise, un empire, on pourrait dire, qu'il faut s'accrocher. Donc c'est vraiment bien ce qu'il fait. Et puis je trouve aussi un truc intéressant, et on n'en a pas parlé, tu parlais du Boxing Day, tu as bien fait Marion, c'est la force mentale des joueurs anglais. Ils jouent le Boxing Day plus les Coupes d'Europe et ils ne sont pas fatigués.
Et ils ne se plaignent pas, surtout.
J'allais dire, Alison.
En France, problème de culture sportive encore, il y a toujours des râleurs.
Ah oui, c'est clair.
Non, mais ça, c'est français, c'est pas. C'est français, ça.
Alors
c'est
que le Boxing Day, ça fait du bien. On est en période de vacances de Noël, on est content, il y a un match de foot.
Il va falloir que je défende un peu. Oui, il va falloir que je défende un tout petit peu la France quand même, mais nous, on est champions du monde, alors que les Anglais, malheureusement, arrivent toujours épuisés lors de l'Euro et lors de la Coupe du Monde, quand même. Alors, c'est bien de faire des très belles saisons en Première Ligue, mais enfin, il faudrait arrêter d'être totalement cramé en quart de finale et se faire sortir de manière ridicule. Non, mais il fallait le dire. J'en ai marre. Ça suffit.
C'est beau, le Boxing Day, vous avez des matchs.
C'est vrai que c'est merveilleux. Le 26 décembre, c'est fabuleux.
C'est beau.
Magnifique. En les matchs.
Je voudrais bien avoir un OM-PSG le 24 décembre.
Mais ça finira par arriver. Moi, je crois, peut-être pas le 24, mais le 26, effectivement, oui. On peut imaginer un Boxing Day à la française. Moi, je pense que Alessandra Nkunku est tout à fait pour et me dit, mais bien sûr, ça va arriver.
Mais oui, mais j'espère.
Ah, mais bien sûr.
Non mais déjà on cherche des repreneurs télévisuels, et ben ça serait un bon moyen d'attirer quelques personnes pour diffuser cette merveilleuse ligue.
Alors Samia me regarde genre, mais alors déjà t'arrêtes de donner la parole qu'à Alison et à Myriam, j'aimerais réagir.
L'interprétation. Non mais je souligne que vrai, effectivement, de toute façon le foot il a été capitalisé en Angleterre, hein, donc nous en France on fait que le calquer, hein, donc c'est sûr on va y passer.
C'est sûr.
Franchement, c'est...
Le Boxing Day, c'est une question d'année, enfin, le fait de faire des matchs à Noël, de faire des matchs tout le temps.
Le
France
foot,
va le faire.
Ça reste de l'argent, hein, c'est un business, hein, donc je pense, oui, qu'on va y passer.
Très bien, très bien. Est-ce que l'OM, ça vous intéresse, mesdames? Moi, je pense que oui, parce
toujours.
Que l'OM, c'est la victoire.
93.
Time Sport, la victoire.
Oui, enfin bon, la victoire. Je pense qu'ils sont un peu facétieux à Beurre FM en ce moment sur Marseille et la victoire. Je pense que quand on a vu un match de Coupe de France, je ne sais pas. Hein, alors là, il y a tous les supporters de l'OM qui sont en train de me dire « Fais attention Marion à ce que tu vas dire. Fais très attention. Va pas dire trop d'horreur sur l'OM. » Bon, un McCourt qui raconte quelques fadaises, dirons-nous, pour rassurer les Marseillais. Un héros qui est toujours là sans être tout à fait là, un Longoria dont on ne sait pas ce qu'il fait, mais en tout cas, et un Sampaoli qu'on attend avec bonheur, avec attraction. Alison Nkunku, est-ce que ce résumé est bon?
C'est très bien.
Écoutez, parfait.
Quelques mots pour résumer la situation de l'OM en ce moment. Ben Marion, tu as absolument tout dit. On attend Sampaoli depuis quelques temps. Alors Sampaoli, on sait très bien que voilà, c'était le bras droit de Bielsa. Donc on l'attend un peu comme le sauveur de Marseille, parce que là à Marseille ça brûle. Marseille qui s'est fait éliminer en Coupe de France par un club amateur. J'ai envie de dire, la descente aux enfers n'arrête pas pour l'Olympique de Marseille. Longoria, alors qu'est-ce qu'il fait? Bah apparemment là il a la présidence, hein, il recrute quelques joueurs, mais il est aussi à la présidence. Héros, il est toujours là pour gérer les biens de McCourt. Oui, je me permets de le dire. Effectivement, il est là pour gérer les biens de McCourt, les biens immobiliers, hein, je précise. Et puis McCourt qui est enfin redescendu de son nuage en disant, bah peut-être que j'ai fait une bêtise, peut-être que j'ai mal géré Marseille, peut-être qu'il aurait fallu recruter et peut-être que j'aurais dû écouter les supporters. Voilà.
Est-ce que on n'est pas un peu dur quand même avec un club qui a quand même fini deuxième du championnat la saison dernière, Alison?
Non, on n'est pas dur avec Marseille. Non, mais Marion, si le Paris Saint-Germain avait été dans la même situation, mais qu'est-ce qu'on n'aurait pas dit? Qu'est-ce qu'on n'aurait pas dit? Mais Marseille, ça quand même prétend être un grand club d'Europe.
On n'en
Marseille...
attend plus tout à fait la même chose,
non,
quand même.
Attends, Marseille s'est qualifié en Ligue des Champions, tout le monde était là. Enfin, Marseille revient sur le devant de la scène. On était quand même un peu content qu'il y ait un autre club que le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Après, ils ont fait n'importe quoi, je peux le dire. Mais on était quand même content. Donc, on attend autre chose de Marseille que ce que Marseille nous montre en ce moment.
Garde tes forces, Alison. Garde tes forces, Myriam Ben Salah. Marseille, McCourt, Héros, Longoria. Et Sampaoli. Alors là, je pense que ça, c'est une équipe qui gagne. Non, c'est dur.
Pour l'instant, elle tâtonne.
Qu'est-ce qu'on en pense justement de tout ce qui se passe à Marseille en ce moment?
Rien ne va. C'est pas compliqué. Il faut faire un grand ménage de printemps avant l'heure. même s'il nous reste quelques jours avant d'arriver au printemps.
Mais il y a déjà eu un petit peu là avec déjà le remplacement.
Là, il faut tout repartir avec des bassins solides, avec des investisseurs qui mettent de l'argent, qui achètent des vrais bons joueurs, un entraîneur de calibre qui peut atteindre la Ligue des Champions. Vraiment quelqu'un...
Des moyens financiers, finalement.
Oui, voilà. Puis un projet à long terme qui dure, parce qu'il faut des joueurs qui s'investissent à 120% sur chaque match, que ce soit Coupe de France, enfin, ou Coupe de la Ligue, enfin, sur chaque match, vraiment à 120%. Et s'ils ne jouent pas à 120% tout au long de l'année, mais qu'ils aillent ailleurs. Parce que Marseille, c'est un grand club. C'est le seul club français à avoir gagné la Ligue des Champions en 93. C'est quand même un public, un peuple... qui a une ferveur populaire. Et ce qu'ils ont fait à la commanderie, bon, je ne cautionne pas parce que c'était violent, mais ça se comprend.
Ah oui, c'était violent, que, oui, oui. On
parce
dire
que
ça.
Ce sont vraiment des passionnés de sport. Ils vivent, c'est une religion à Marseille, ils vivent pour leur club. Et c'est vrai que quand qu'on soit supporter ou pas, quand on voit qu'on met de l'argent dans un club et finalement, ils se font éliminer par une 4e division, c'est très beau pour ce club de 4e division. Ils ont fait une belle performance, mais c'est pas normal pour Marseille.
Samia Benzaïd, l'OM, c'est une mauvaise passe ou finalement mais c'est normal aussi?
C'est normal, mais c'est une mauvaise passe.
Fais les deux à la fois.
Ouais, grave. Parce que l'OM, en ce moment, même si vous avez raison, hein, première équipe et seule équipe à avoir eu le titre de Ligue de Champions, en attendant, depuis ces dernières années, ça rame fort même. Hein. Sampoli propose de tout guérir là, par je ne sais pas quelle stratégie, mais là, il est temps en tout cas de faire quelque chose. Hein. Moi, je n'ai pas le remède ou le. Je ne sais pas exactement ce qu'il faut faire, mais en tout cas, il faut faire quelque chose, ça, c'est sûr.
Alissa Nkunku. Le remède, Myriam nous l'a dit quand même en filigrane, c'est le budget, c'est des investisseurs. Est-ce que finalement le football et notamment Marseille, l'Olympique de Marseille, finalement c'est pas juste une histoire d'argent?
Bien sûr, mais ça fait longtemps que c'est une histoire d'argent avec la famille Dreyfus aussi. On leur reprochait de ne pas investir, d'être un peu radin sur les bords. Là, avec Macourt, il a promis monts et merveilles avec ce Champions Project. Longoria qui nous fait savourer, mais Longoria, moi, c'est le seul que je lui taperai pas trop dessus quand même, Longoria.
Ah bah bien sûr, on le connaît pas. On risque pas de lui taper dessus, pauvre enfant.
Non mais depuis qu'il est là, quand même, il a fait quelques bonnes choses. On va se le dire, ramener Milic, quand même, ça peut être un gros coup. Voilà, il a fait quand même le travail.
Oui, mais finalement, si on se met à la place de héros, et là je le dis à tous les gens qui nous écoutent, tous ceux qui aiment le foot et qui aiment Marseille. Avoir ramené Villas-Boas, c'était pas une erreur. On serait peut-être tombés un peu tous dedans. On se serait dit, c'est bien. Ramener Strootman, à l'époque, hein, c'était pas si mal, Strootman. Est-ce que Héro a fait tant d'erreurs que ça à Marseille ou simplement le peuple marseillais Héro, le côté parisien qui fait des PowerPoint et de l'autre côté, les Marseillais plus dans le... vous le voyez très bien, notre ami Héro, voilà, qui fait des PowerPoint et qui est très corporate, voilà. Et d'un autre côté, le peuple marseillais qui est beaucoup plus comme ça pour le la gagne, etc. Est-ce que finalement c'est ça, c'est que c'est un mariage qui a pas pris, quoi?
Totalement, ça a pas pris à Marseille. Enfin, le peuple marseillais attendait plus de cette équipe. Je l'ai dit tout à l'heure, on attendait que Marseille revienne sur le devant de la scène et on s'attendait à ce que Marseille soit le concurrent direct, encore comme à l'époque du Paris Saint-Germain. Villas-Boas, moi, je lui taperais pas dessus. Je pense que quand Villas-Boas est arrivé à l'Olympique de Marseille, il a établi les choses de manière claire. Ça veut dire qu'il a dit, écoutez, moi, je suis à Marseille, je ne ferai pas de miracle, je ferai avec l'effectif que j'ai, parce qu'il faut pas oublier que quand il est arrivé, il avait un effectif totalement décimé. Tout le monde était à l'infirmerie. Et il a quand même qualifié cette équipe en Ligue des Champions. Après, encore une fois, ce qu'il en a fait, c'était n'importe quoi. Mais il a eu le mérite de la qualifier en Ligue des Champions. Donc, c'est vrai, d'un point de vue comptable, en vrai, Héro n'a pas fait tant de misère que ça. Pas tant de mal. Mais en fait, je pense qu'il n'est pas allé au bout de la chose. Et à Marseille, on est des jusqu'au boutistes. On veut que le cœur y soit, que l'âme y soit. Et justement, Héro n'a pas mis son âme et son cœur pour aller au bout des choses.
Mais justement, on dit toujours il faut l'âme, il faut le cœur. Et Myriam parlait d'ailleurs très justement d'un projet à long terme. Mais est-ce que c'est possible un projet à long terme à Marseille?
Ben oui.
Pourquoi ça ne serait pas
grave? Pourquoi ça ne serait pas?
Ah ben justement, parce que ces dernières années, beaucoup la valse des entraîneurs, beaucoup de présidents
qui a réussi.
Non mais beaucoup de présidents, par exemple, même à l'époque de Margarita Louis-Dreyfus.
Il suffit de trouver un patron passionné.
Un patron passionné, Alison, Samia.
Pas que, hein, des joueurs aussi. Hein, tout se fait
oui,
pas avec le patron aussi.
Si t'as un patron passionné, forcément, ça va découler.
Est-ce qu'il n'y a pas finalement toujours la culture tapis? Mais ça, c'était, il y en a eu un, et puis il n'y en aura pas d'autres, Myriam.
Bernard Tapie a laissé tellement une trace. Tout à l'heure, on parlait de Alain Ferguson, donc c'est, ça revient au même. Ce sont des gens qui ont tellement, comme Pape Diouf aussi, qui ont tellement marqué l'histoire, qu'on s'en réfère toujours à eux parce qu'ils ont fait tellement plus, tellement grand, ils ont apporté la victoire.
Mais parce qu'ils étaient là pour les bonnes raisons, ils étaient là pour des raisons sportives. Et là, on rentre dans une autre ère, malheureusement, on rentre dans le football business. Et là, on va à Marseille, pourquoi ? Pour vendre Marseille, pour la plage, pour le côté un peu sudiste, pour le soleil, etc. On vient pas maintenant investir à Marseille parce qu'on aime le foot, voilà.
C'est ce qui a été fait à Paris, hein, d'ailleurs. Hein. Paris, avant, il y avait une vraie équipe, il y avait des vrais supporters, il y avait pas tant ce côté un peu business. Là, les joueurs de foot, hein, ils sont limite.
Enfin, c'est plus sympa de voir Neymar quand même que Sakatiéné.
Ouais, ok, mais Neymar, là, il est quand plus même en tant que mannequin qu'en tant que footballeur. Hein.
Non, mais je vois que tout le monde se marre dans le studio. Non, mais vous avez très bien compris, et ceux qui ont subi Colonie Capitale et qui sont supporters comprendront très bien ce que je viens de dire. Mais quand même, Alisson, Neymar, c'est quand même mieux d'avoir. Est-ce que l'OM cherche pas aussi à avoir son Neymar ?
Oui, bien sûr.
Ah,
aujourd'hui, on est dans le football glamour. Ça veut dire que il faut vendre des maillots, il faut.
Et Neymar, il est beau.
Non, c'est ça, une belle gueule, voilà. Une belle affiche, une belle tête d'affiche pour représenter le club à l'international. Et on est dans le football champagne aujourd'hui.
Alors, on a réussi. Hein, Yanis me regarde. Hein, on a réussi avant la pub à dire une seule fois une chose sur le physique des joueurs. Moi, je trouve que pour une bande de bonnes femmes, on est
c'est
plutôt
pas mal.
Non, mais on est même
c'est
très
fort.
C'est
moi qui l'ai fait,
dans un instant, on va parler un petit peu justement de la liberté de la femme. On va parler du sport, de leurs souvenirs à toutes ces femmes qui sont autour de moi. À tout de suite.
Time Sport revient dans un instant. Bubber FM, 19h-20h. Time Sport. Avec Bilal Nedman.
Voilà, toujours Bilal Nedman, hein, bien sûr, qui est un peu la star de Bubber FM, mais c'est Marion Hidalgo ce soir qui le remplace avec une bande de femmes exceptionnelles que vous écoutez depuis 19h. Alison Nkunku, Myriam Bensala, Samia Benzaïd et Leila Oubrahim. Alors mesdames, il y a une question qui nous a été posée là tout à l'heure, qui est: quelles sont les femmes dans le sport qui vous ont marqué? Alors moi je vous ai dit pendant la pause pub, bon allez, prenez-moi des divas du sport, hein. C'est-à-dire on va pas commencer à parler d'une vague sportive des années 90 que tout le monde a oublié et qui était très gentille dans sa... Non, on y va, on veut un peu du si je devais comparer, du Maradona, du Cantona, du caractère, mais en femme. Alors moi, je dirais Marie-Josée Pérec. Voilà, parce que moi je trouve qu'elle était... Oh, ça se marre, ça y est, ça rigole. Voilà, je dirais du caractère, une diva du sport, et en même temps qui nous a laissé de grands et beaux souvenirs. Alors, Alison Nkunku.
Alors moi j'en citerai deux. Ah. Je citerai la gymnaste Simone Biles, une gymnaste hors pair, une championne olympique. Elle est tout simplement incroyable, tout petit bout de femme, toute petite, toute menue, mais elle est incroyable. Et bien évidemment, Serena Williams, une femme, deux femmes noires que je viens de citer, déjà c'est très important dans le sport aujourd'hui, deux femmes engagées, de championnes, de très 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 grosses championnes, des femmes qui n'ont pas peur d'être ce qu'elles sont. Je parlais de tout à l'heure, le fait d'assumer sa personnalité, et ces deux femmes qui s'assument pleinement, telles qu'elles sont. On a Serena Williams qui a été critiquée plusieurs fois sur son physique.
Sur son poids, sur
le fait qu'elle ressemblait, qu'on l'a comparée souvent à un homme, parce que c'est une femme quand même qui a une carrure, qui est musclée. Et malgré ça, quand elle est un peu chahutée, on la voit pose sexy sur Instagram avec son mari, main dans la main, et elle s'assume, et c'est une belle femme. Pour moi, ce sont deux sportives incroyables.
Alors, une femme qu'on n'a pas entendue beaucoup et qui depuis tout à l'heure dit non, on laisse la parole aux autres, ce serait gentil. C'est la psychologue hein, de cette table, et qui laisse beaucoup la parole aux autres. Mais là, quand même, j'ai envie de t'entendre, Leila Oubrahim. Quelle serait la femme qui t'a marquée dans le sport
hein? Je vais complètement rejoindre ce qui vient de se dire avec Serena Williams, moi aussi, parce qu'elle s'assume, c'est une businesswoman, une grande athlète, une maman, et effectivement qui assume, ouais, avec toutes les attaques qu'elle a pu recevoir.
Qu'elle a eu sur son physique, effectivement,
sur
effectivement ses muscles, sur voilà, on l'a beaucoup critiqué, effectivement.
Une femme de caractère aussi.
Hein. Ah oui.
Elle n'hésite pas à monter au créneau. On l'a vu quand elle s'était fait virer, je crois que c'était à l'US Open, parce qu'elle avait mis un coup de raquette et qu'elle a été sanctionnée et qu'elle est montée au créneau avec l'arbitre. Mais pourquoi vous me dites ça? C'est parce que je suis une femme. Vous l'aurez jamais dit à un homme. C'est complètement scandaleux. Serena, t'es bien gentille, mais tu sors. Voilà. Donc, elle hésite pas.
Elle hésite pas et elle a bien raison. Samia Benzaïd, journaliste, je le rappelle.
Bah, je vais rejoindre aussi, mais je vais en citer d'autres quand même, histoire d'être un peu plus originale.
Oui.
Laura Flessel, déjà. Bon, ok, elle a peut-être choisi pas le bon gouvernement, mais
pourquoi pas, après tout, c'était le début, pourquoi pas, pourquoi pas.
Ça ne tient qu'à moi ce que je viens de dire.
Très bien.
Mais en tout cas, elle a eu le mérite de, après sa carrière sportive, d'essayer de se reconvertir. Et pourquoi pas la politique, parce que je trouve que la politique sont un peu déconnectés de la réalité, et encore plus dans le sport. Donc du coup, c'est plutôt pas mal qu'une sportive intègre ce milieu.
Laura Flessel, c'est vrai, c'est vrai.
Et pour en citer une deuxième aussi, j'ai envie de parler d'Amandine Henry aussi, qui est en plus d'être dans l'équipe de France féminine.
Enfin du foot, hein. Parce qu'on parle foot depuis le début de cette émission. Enfin, une femme qui fait du foot.
Et mais je trouve que, pour le coup, elle reflète bien la femme footballeuse qui a des engagements, des convictions, qui n'est pas qu'une sportive sans cerveau, qui est jolie aussi. Pourquoi on serait sportive et pas belle? Enfin, voilà.
Elle a tout ça, Amandine Henry.
Elle a tout ça.
Myriam Bensala, enfin, à toi. Quelle serait la femme qui t'a le plus marqué? Ou plusieurs, hein, vous pouvez en dire deux, trois. Et bien sûr, Alison me dit, est-ce qu'on peut en dire d'autres encore? Bien sûr, Alison, on a tout le temps, on est ensemble jusqu'à
20h. Bah déjà, je te rejoindrai. Marie-Josée Pérec, pour tous ses records, notamment sur le 400 mètres.
Oui.
C'est vraiment les records olympiques, c'est pas à rien. Et puis Jeannie Longo aussi. Jeannie Longo, pour ses records sur 30 ans.
Oui, ça c'est vrai.
C'est une femme. Ça.
Ah oui.
C'est un monde très masculin, le cyclisme, c'est très dur, l'air de rien. C'est un sport physique, très intense sur une durée. Mm-hmm. On en parle peu, parce que généralement, c'est vrai que c'est problématique. Le Tour de France féminin intervient quelques semaines après le Tour de France masculin, qui est très peu suivi, hélas. Mais c'est une discipline qui mérite un peu plus d'attention. Et quand on voit que Jeannie Longo a marqué l'histoire de son empreinte, cette compétition, c'est beau.
C'est vrai, Jeannie Longo, effectivement. Non, c'est vrai, on n'y pensait plus. Alison Nkunku, alors.
Ah oui, tu me demandais du football, Marie, je vais t'en donner avec Megan Rapinoe.
Bien sûr.
Footballeuse américaine de l'équipe de la team USA. Samia parlait de d'engagement, et elle, c'est l'engagement par excellence dans toutes les causes justes, en tout cas à ses yeux. Elle est engagée pour la communauté LGBTQ+, pardon. Elle est engagée dans le mouvement Black Lives Matter aussi. Elle était très 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 engagée. On a vu qu'elle s'affiche beaucoup avec sa femme sur les réseaux sociaux. Et c'est vraiment un porte-étendard pour toute une communauté.
Pour toute une communauté, Alison. Alors, si on remonte un peu dans le temps, dans votre enfance, est-ce qu'il y a une femme qui, quand vous étiez petite, vous plaisait? Myriam Bensala.
Alors justement, ça tombe bien ta question, puisque du coup, je vais surenchérir sur le fait qu'on est des journalistes sportifs aussi.
Oui.
Et il y a des femmes qui nous ont marquées, notamment la pionnière, c'est Marianne Mako.
Mako, bien sûr.
Il faut penser à elle, c'est vrai, parce que c'est la première.
La première, elle a eu beaucoup, beaucoup de difficultés. Ça, c'était pas comme aujourd'hui.
Pendant
hein.
quelques années, c'est vraiment beau. Et puis après, par la suite, il y a eu Nathalie Yaneta, qui a eu des belles responsabilités.
Qui est toujours là et qui est très, très talentueuse, ouais.
Mais c'est vrai que ce sont aussi des femmes de caractère. Des femmes qui sont restées tout aussi féminines et qui ont leur personnalité et puis surtout une expertise du sport et du football notamment qui est magnifique. Et quelque part, on suit nous à travers ce plateau, on suit leurs pas. Et peut-être qu'un jour, les futures générations parleront de nous comme nous, on parle de ces pionnières, journalistes sportives.
Alison Nkunku, on parlait justement de ces... Tu as donné des exemples de ce qui se passe outre-Atlantique. On voit une autre façon de se comporter aux États-Unis. Est-ce qu'on ne doit pas prendre, nous, femmes, en Europe, en Orient, mais aussi en Asie, en Afrique, un peu exemple sur ces femmes-là?
J'aimerais bien qu'on suive en tout cas les traces, parce que j'ai l'impression que en Occident, du moins, on a un peu peur quand on est une femme de s'exprimer et de passer et de couper la parole à un homme. On reste un peu dans nos carcans, de peur qu'on nous dise t'es une femme, tais-toi, mets-toi sur le côté. On devrait prendre la parole, on devrait crier et on devrait surtout s'affranchir de toutes ces notions un peu arriérées, je dirais, que on représente de la femme dans la société. Et outre Atlantique, les femmes, de plus en plus, n'hésitent pas à prendre la parole. Donc j'aimerais aussi qu'on se libère et qu'on n'hésite pas à le faire aussi.
Alors, je me tourne vers la psychologue de la table. Justement, est-ce que justement, je disais, l'exemple américain, c'est un exemple pour nous?
Oui.
Ça doit l'être.
Moi, la réaction qu'on vient d'avoir ici, là, me fait penser aux représentations sociales, finalement, qu'on a. Autrefois, quand on pensait sport, tout de suite, on pensait à la performance, aux muscles, et c'était lié à l'homme, au masculin. Sauf que je pense qu'aujourd'hui, avec l'essor du fitness, des programmes en ligne, des coachs sportifs, ça change. Aujourd'hui, la femme se réapproprie son corps, elle se réapproprie son muscle. Il n'est plus question du corps, de la maternité, du corps, du travail. Aujourd'hui, c'est aussi un corps qu'on va sculpter, qu'on va travailler. Pas seulement non plus pour la forme hygiénique, c'est-à-dire pas seulement pour mincir, pour... voilà. Donc voilà la réaction que je voulais apporter.
Et justement, hors antenne, tu me disais, il s'est passé quelque chose par rapport au Covid, justement, que les femmes ont, celles qui ont fait du sport, ont vécu les choses différemment.
Effectivement. Alors il y a deux comportements qu'on peut noter pendant le Covid. On va avoir les personnes qui vont devenir sédentaires à cause du télétravail, à cause aussi des études, les études en ligne, donc de suivre les cours en ligne, ça demande beaucoup de temps, de rendre des travaux en ligne. Je parle essentiellement des étudiantes. Mm-hmm. Mais aussi, donc oui, je disais du télétravail, donc comportement sédentaire, mais aussi des personnes qui n'ont plus accès aux salles de sport, qui vont qu'on va retrouver dans la rue. On retrouve beaucoup de joggeurs maintenant dans la rue. Et effectivement, il y a une étude scientifique récemment publiée qui prouve que les mères qui ont été contraintes de rester à domicile ont développé un stress accru par rapport aux relations maternelles, voilà, avec la charge mentale à la maison. Elles ont développé un niveau de stress accru, une qualité de vie qui baisse. En revanche, pour celles qui ont développé une pratique sportive, elles ont abaissé ce niveau de stress et elles ont amélioré leur qualité de vie.
Est-ce que c'est votre cas ? Est-ce que vous avez fait, vous, du sport pendant le Covid ? Ou au contraire, vous avez plutôt été sédentaire, plutôt, bah, je vais regarder Netflix, je vais prendre une pizza et ça sera très bien.
Eh bien, je vais vous avouer qu'au début du confinement, je suis devenue sédentaire.
Oui.
Mais là, je me reprends en main, je fais du sport.
Est-ce que ça a été pour vous, alors égoïstement mesdames, hein, je parle vraiment égoïstement pour vous, une belle année cette année 2020 avec le Covid. Est-ce que vous avez redécouvert ou découvert des choses de vous que vous ne connaissiez pas, ou au contraire ça a été vraiment très très dur psychologiquement? Et je commence avec la psychologue de la table, toujours.
Ben écoutez, moi au début ça a été, j'ai retrouvé ma famille, je pense comme beaucoup de personnes, la maison de campagne. Ça a été ensuite... c'est vrai que j'ai développé beaucoup de projets, finalement. Donc, je l'ai plutôt bien vécu. C'est vrai qu'on hésite à dire bien vécu.
Mais c'est pour ça que je demande égoïstement,
oui,
hein,
oui,
bien
oui,
sûr.
C'est ça. Mais voilà, j'ai développé d'autres projets, donc...
Donc ça s'est bien passé. Alissa Nkunku.
Voilà, c'est le moment, je vais un peu raconter ma vie.
Ah ben, c'est le moment, c'est le moment.
J'ai traversé un peu trois phases dans cette période de confinement, donc pendant la dernière année. Au début, j'étais dans une phase de fourrie, on connaît pas, on découvre qu'est-ce que c'est, pourquoi, machin. Donc j'étais à la maison, je le vivais bien et c'était sport à fond, même rythme que quand je vais à la salle de sport. Et puis 2, 3, 4 mois sont passés et plus rien, plus envie d'aller à la salle de sport, on mange un peu plus, on prend quelques kilos. Et là, depuis quelques temps, je me dis que peut-être que le monde va se réouvrir dans pas longtemps, donc peut-être qu'il faut que je me rouvre moi aussi. Donc là, j'ai recommencé le sport, je vais jogger dans la rue, je m'active un peu plus. Donc voilà, c'était un peu trois phases distinctes.
Samia Ben Zaïd.
Comment dire ? Alors le confinement au début, ouais, c'est un peu comme Alison, hein, cool, hein, je peux y rien faire, je suis chez moi, enfin rien faire.
Non, mais on est d'accord, oui, c'est vrai que non, mais il faut le dire, il faut le dire.
On a pas de transport en commun, enfin on se lève, dès qu'on se lève, on est sur notre lieu de travail en vrai, donc c'est plutôt cool au début. Enfin franchement, moi je l'ai bien pris, je l'ai bien vécu. En plus relation avec la famille, on reprend les repères de chez soi.
Ouais.
Après, c'est vrai que franchement, me dire à quelle heure rentrer, quoi faire, tout est fermé, ça devient, c'est plus marrant du tout là. Ah s'il non. vous plaît, vous pouvez nous remettre.
c'était plus difficile après.
Ouais non.
C'est plus difficile
ouais.
après. Mais Ben Salah, alors cette année Covid, comment tu l'as vécu?
C'est particulier comme année.
Est-ce que t'as fait du sport, toi?
Courir après le bus peut être considéré.
C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. On parlait de Ronaldo le vrai en début d'émission, maintenant on est sur courir après le bus. Non mais c'est bien, c'est bien, c'est bien les filles. C'est très bien.
Non mais marcher c'est un sport, déjà très bon pour le
bien
cœur
sûr,
en plus.
Bien sûr.
Donc, non mais c'est une adaptation en fait, il faut savoir gérer son emploi du temps, être organisée aussi. Et ça, quelque part, ça nous ramène à l'essentiel. Tout à l'heure, on parlait de valeur du sport et tout ça, mais ça, c'est un retour aux sources, quelque part. C'est enlever toute cette futilité, cette fioriture qui nous encombre pour retrouver l'essentiel soi-même, les proches, revenir aux premières valeurs, ce qu'on aime, ce qu'on apprécie, ce qu'on aime faire, ce qu'on aime partager, ce qu'on aime regarder. Passer du temps avec des gens que d'habitude on va envoyer un SMS pour dire tu vas bien, et là on prend le temps, en fait c'est ça, on prend le temps de se retrouver et de retrouver les gens qu'on a aimés, les passions qu'on a aimées, et aussi de se découvrir soi-même. Parce qu'on est face à face quelque part, on est seul avec soi, on se redécouvre.
Je vois Leïla Ouraïm qui acquiesce.
Et quelque part aussi, parce que c'est pas simple aussi, parce que c'est, il faut prendre le temps de s'analyser, il faut prendre le temps de s'écouter, de faire face à ses peurs, ses angoisses, parce que c'est pas évident pour tout le monde d'être fermé, d'être un peu mis en... C'est un peu en prison, quelque part, entre guillemets. Hein. Je pèse les mots, mais c'est vrai que c'est une adaptation, comme je disais tout à l'heure. Et il faut... Et en même temps, on se rend compte du pouvoir de l'impact social. On a besoin des autres pour être bien. On a besoin d'aller dans les jardins pour être bien. On a besoin
d'être au resto, disons-le clairement.
Au cinéma.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Parce que le lien social est important. L'être humain est fait comme ça. On le voit aussi avec les animaux. On est tous comme ça. Tout ce qui est humain a besoin de ce lien humain. Et c'est vrai que on peut avoir des beaux discours, mais il faut espérer le retour à une vie normale, parce qu'on a besoin d'être ensemble, comme on l'a aujourd'hui à Times Square, à Beurre FM. Merci pour cela d'ailleurs. Mais on a besoin d'être ensemble, d'être réunis, que l'être humain se redécouvre et en même temps évolue, s'épanouisse et soit heureux.
Leïla Ouraïm, notre psychologue, docteur en psychologie, est-ce que finalement le Covid, ça a donné d'autres habitudes sportives, d'autres habitudes culturelles, d'autres... Est-ce que ça nous a finalement renfermés ou est-ce que c'est plutôt positif? Qu'est-ce qui en sortira de tout ça?
Effectivement, nous vivons dans un contexte d'incertitude. La situation, elle est ambiguë, elle est ouverte à différentes interprétations. Elle est nouvelle, inédite, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se reposer sur une expérience passée pour essayer de vivre au mieux cette expérience présente, et imprévisible. On ne sait pas comment les choses vont se passer. Donc effectivement, c'est ce sentiment d'inquiétude qui se traduit par de l'anxiété au niveau physique, qui fait que des personnes vont venir me consulter, moi, au cabinet. J'ai beaucoup de personnes qui viennent parce qu'elles ont des difficultés à se concentrer, à dormir, des difficultés au niveau de la gestion de leur stress, de l'irritabilité. Et effectivement, moi, je peux aussi dire aux personnes qui viennent me voir, les conseiller à reprendre une pratique de sportive. Parce que j'ai beaucoup de personnes, effectivement, qui ont arrêté le sport. Et la pratique du sport va nous aider justement à favoriser, à augmenter notre tolérance à cette situation d'incertitude, notre tolérance à l'incertitude. On le sait, de façon générale, le sport va nous aider à abaisser notre niveau de stress, il va nous aider à améliorer nos troubles du sommeil, nos symptômes nos symptômes dépressifs. Donc voilà, vraiment, si notre auditoire là nous entend,
oui, bien sûr,
je dirais qu'il faut reprendre une activité sportive.
Si on peut.
Et puis les études scientifiques, encore une fois, le montrent. Hein, ceux qui pratiquent régulièrement une activité physique vivent la situation actuelle
mieux.
La pandémie comme moins lourde, une charge mentale moins lourde.
Myriam Ben Salah.
À partir des gens, on peut faire du sport dans la rue naturellement, en prenant les escaliers, en mode prendre l'escalateur, en marchant une demi-heure par jour. Déjà, c'est du sport basique, pas cher, gratuit.
Voilà.
On peut déjà s'aérer l'esprit en faisant cela. Et puis, juste une petite question pour vous, Leïla. Mm-hmm. Est-ce que les patients qui viennent vous voir dans cette période de Covid, est-ce que le Covid a accéléré leurs problèmes?
Ah, très bonne question.
Rapidement, mesdames, on n'a plus qu'une minute. Voilà.
Alors, ce n'est pas que ça a accéléré leurs problèmes. Alors, parfois, il y a des personnes qui viennent vraiment parce qu'ils se questionnent sur la période actuelle. D'autres fois, c'est parce qu'ils sont submergés par ce sentiment d'incertitude. Et encore d'autres fois, c'est juste qu'effectivement, la vie nous a convoqués à nous retrouver face à nous-mêmes. Et donc, à nous poser des questions sur des problématiques antérieures, finalement passées. Et ça ressurgit aujourd'hui, puisque nous sommes effectivement face à nous-mêmes. Nous ne courons plus à droite, à gauche. Nous sommes à la maison. Et nous avons ce temps avec nous-mêmes, voilà.
De se redécouvrir.
Voilà.
Merci. merci beaucoup pour ce moment de détente de fin d'émission où on a commencé très fort en parlant de Karim Benzema et on finit sur il faut faire du sport pour se détendre. Absolument. Merci beaucoup Alison Nkunku, merci Myriam Bensala, merci Samia Benzaïd, merci Leïla Oubrahim. Très belle soirée avec Beurre FM bien sûr.
Retrouvez Time Sport tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.